Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'ancien ministre des Affaires étrangères Hubert Védrine, le philosophe François-Xavier Bellamy, le journaliste du Monde Gérard Courtois et l'ancien conseiller de l'Élysée Gaspard Ganzer. Au sommaire ce dimanche, Aquarius, le radeau d'une époque. Après le sommet Amérique-Corée du Nord, Trump s'agite, la Chine agit. Et si c'était le dessinateur Plantu qui, en un seul dessin à la une du Monde mercredi, résumait l'époque? On y voyait l'Aquarius, ce bateau affrété par des ONG pour sauver 629 migrants, recueillis au large des côtes libyennes, des hommes, femmes, enfants, les bras levés pour implorer de l'aide. Et juste au-dessus, Tryphon Tournesol, le professeur sourd comme un pot de Tintin, qui les invitait, ces malheureux, à crier plus fort, parce que les prothèses auditives n'étaient pas encore remboursées dans l'Hexagone. Le décalage d'un pays riche, le nôtre, la France, sourde mais aussi aveugle, muette et peut-être amnésique. Une France qui avait par exemple oublié qu'elle avait signé des accords de relocalisation en 2016 pour que les arrivants en Grèce et en Italie soient équitablement répartis dans les pays de l'Union. Une France qui n'était pas la dernière à renvoyer vers l'Italie et l'Espagne les « Dublinés », du nom des accords de Dublin qui considèrent que le premier pays où le migrant débarque est enregistré est celui où l'on peut le renvoyer ensuite s'il s'avise d'aller ailleurs. Système pervers qui mettait une pression considérable sur les zones géographiquement les plus proches de la Méditerranée. Voilà qui justifiait aussi l'exaspération italienne au-delà des positions xénophobes et populistes du ministre Matteo Salvini. Exaspérante aussi était la confusion des sujets, certains dirigeants confondant allègrement le droit d'asile et le droit humanitaire. Parce que dans cette affaire, il ne fallait jamais cesser de le marteler, il ne s'agissait pas forcément de donner des papiers aux 624 passagers de l'Aquarius, mais juste de les empêcher de mourir.
On est avec ces 629 personnes à bord, on cherche à débarquer quelque part, on a besoin qu'on nous indique un port de débarquement et celui-ci ne nous est pas donné.
En ce qui concerne la répartition des demandeurs d'asile, le pays qui est le plus en tort par rapport à l'Italie, c'est la France, parce que la France s'était engagée à prendre en charge 9816 personnes débarquées en Italie et en réalité, elle en a pris 640. Alors je lance un appel au président Macron qui prétend que les Italiens sont moches et méchants et Salvini à vomir, je lui dis « Emmanuel, si tu as le cœur aussi gros que tu le dis, demain nous te donnerons les 9000 migrants que tu t'étais engagé à accueillir. »
Ça fait un an que nous travaillons main dans la main avec l'Italie. De manière exemplaire, nous avons divisé par 10 les arrivées.
Gérard Courtois, qui devait accueillir l'Aquarius d'un point de vue strictement légal?
D'un point de vue légal, c'est le pays qui était le plus proche, c'est-à-dire l'Italie. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais dans cette affaire, on est en pleine crispation, tétanie, paralysie des uns et des autres. L'Italie, elle est coupable de ne pas avoir fait le geste humanitaire nécessaire pour accueillir ce bateau. Elle est en même temps parfaitement cohérente. Son gouvernement applique la politique sur laquelle il a été élu. La France, dans cette affaire, elle s'est montrée à la fois, à mon sens, pusillanime et épidermique, puis épidermique, en commençant par invoquer le droit maritime, très bien, est-ce que c'est une affaire de droit ou est-ce que c'est une affaire de droits humains élémentaires? Bon, et ensuite, en surréagissant quand le président de la République a vu que ça commençait à râler et à tanguer dans sa majorité, et en sortant ces deux phrases sur la part de cynisme et d'irresponsabilité, et en s'attirant la réplique des Italiens, qui était hélas assez fondée. Mais au bout du compte, dans toute cette affaire, le problème, c'est l'Europe. Et l'Europe, elle est à la fois responsable et impuissante sur l'ensemble de ce dossier. Vous l'avez rappelé en introduction, tous les mécanismes qui ont été mis en place depuis 3-4 ans, depuis le premier afflux 2014-2015 de réfugiés syriens notamment, les mécanismes de Dublin qui ont été révisés en 2013, les mécanismes de quotas, de répartition entre les différents pays européens et les mécanismes de surveillance des frontières, tous ces mécanismes sont lacunaires et sont en train de ont démontré leur impuissance ou leur incapacité à affronter sérieusement, de manière solidaire et coordonnée, ce problème. Donc le vrai enjeu aujourd'hui, me semble-t-il, c'est est-ce que l'Europe est encore capable, sur un sujet central, sur un sujet qui va être, à mon sens, le sujet clé du prochain scrutin européen, qui est déjà le sujet de nombreuses élections nationales, que ce soit, on l'a vu en Italie, on l'a vu en France.
Et avec ce qui se passe aussi cette semaine en Allemagne.
En Allemagne, absolument.
Avec l'aile droite de la majorité d'Angela Merkel, qui lui donne jusqu'à lundi pour changer de position sur la politique migratoire.
Et tout ça sur fond, ou dans la perspective des élections régionales, notamment en Bavière, dont le ministre de l'Intérieur allemand est l'un des principaux responsables politiques. Donc on a une fracturation à la fois nationale, des paysages politiques nationaux, une pression croissante des partis, appelons-les nationalistes, si on ne veut pas les appeler d'extrême droite, mais certains le sont, d'extrême droite, que ce soit en Autriche, en Italie ou ailleurs, et une fracturation de la capacité européenne à affronter de manière coordonnée, sérieuse, efficace, un tel problème.
Hubert Védrine, cette affaire de l'Aquarius, qu'est-ce qu'elle dit de nous? Qu'est-ce qu'elle dit d'une époque? Et en effet, qu'est-ce qu'elle dit de l'Europe?
L'affaire de l'Aquarius, comme vous dites, et tout ce que ça entraîne, démontre qu'il faut absolument, absolument, une vraie maîtrise des flux migratoires dans le cadre d'un Schengen repensé, réinventé. On en parle un peu vaguement depuis des années. Énormément de choses ont été faites, mais comme l'a dit Gérard Conta, ça reste lacunaire. Et il faut absolument qu'au sein de Schengen, il y ait une vraie harmonisation des conditions de l'asile vraie qui doit être préservée à tout prix. C'est l'âme même de l'Europe. L'asile pour les gens vraiment en danger, vraiment persécutés. Il faut arrêter de tout mélanger. Il n'y a pas de réfugiés économiques, ça n'existe pas. Il faut reprendre la constitution de 1946, de 1958, le Conseil constitutionnel, etc. C'est les gens en danger.
J'en profite pour faire une petite parenthèse, mais personne ne s'est posé la question de savoir justement quelle catégorie de migrants était sur l'Aquarius. Alors il faut beaucoup chercher. Il faut beaucoup chercher pour comprendre qu'il y a une majorité de Soudanais et de Syriens, c'est-à-dire des nationalités qui sont largement protégées dans le cadre de la demande d'asile.
Donc il faut réintroduire la distinction qui est fondamentale, mais dont ne veut ni l'extrême droite, ni l'extrême gauche, ni beaucoup d'associations d'ONG ou de gens généreux spontanément, la distinction entre ce qui relève de l'asile, qu'il faut préserver à tout prix, et les mouvements migratoires économiques qu'il faut absolument co-gérer, qu'il faudra co-gérer avec les pays de départ et de transit. Tout le monde le sait, tout le monde l'a dit, oui, il faudrait, mais c'est compliqué. Ça veut dire énormément de mini-crises à gérer entre les uns et les autres, mais au bout du compte, si un Schengen n'est pas réinventé de façon spectaculaire, massive, une sorte de Big Bang du système Schengen, les conséquences seront que partout en Europe, il y aura des espèces d'alliances Le Pen-Mélenchon transposées, et que les gouvernements, disons raisonnables, qui veulent gérer ça, seront sur la défensive partout.
Mais pour que je comprenne bien, lorsque vous parlez de ce nouveau Schengen, on va le rappeler, c'est la libre circulation, ça existait d'ailleurs déjà, c'était déjà contenu dans le principe même du traité de Rome, même si ensuite c'est mis en place et c'est signé en 1985.
Au début des années 80, milieu des années 80.
Sauf qu'aujourd'hui déjà, en fait, ce principe de libre circulation n'existe plus. Pour beaucoup de pays, il y a des murs de plus en plus en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de contrôle réel à l'extérieur. Parce que pendant très longtemps, c'est apparu comme cruel, compliqué, et puis on voulait mettre un pays suivant dans Schengen. Il faut une vraie frontière extérieure, pas pour fermer, pour gérer, pour contrôler. Personne n'habite dans une maison sans porte ni fenêtre, dans les gens qui donnent des leçons de morale à tout le monde.
Donc les frontières extérieures, ça veut dire quoi? Ça veut dire Frontex, par exemple, agence dont on renforce le budget.
Il faut une police terrestre et maritime avec beaucoup plus de moyens, une interconnexion absolue, systématique avec l'ensemble des polices et des polices des frontières de l'ensemble des pays de Schengen par rapport à ça. Et à partir de là, il faut une co-gestion, non pas des demandeurs d'asile, parce qu'on ne va pas négocier avec les pays dont les régimes sont tellement atroces que les gens s'empêchent de partir pour survivre, mais la co-gestion avec les pays de départ et de transit. Il faut arriver à ça. Tous les éléments sont réunis. Donc je suis d'accord avec l'analyse de Gérard Courtois, mais j'ajoute que malgré tout, malgré cette situation et le drame de l'Aquarius, l'affaire de l'Aquarius, il y en aura d'autres, révèle qu'il faut le faire quand même. En réalité, il n'y a pas de contradiction insurmontable dans ce que je dis entre les uns et les autres.
Pour qu'on comprenne bien ce Schengen renforcé que vous appelez de vos voeux, qu'est-ce qui l'aurait changé à la gestion de cette affaire de l'Aquarius?
Si vous entrez, à l'instant T, ça ne change rien, mais vous entrez dans un processus où vous obligez les pays de départ à entrer dans la négociation, parce que sinon il y a une espèce d'économie, en fait, d'économie de la migration sauvage qui va jusqu'au fond de l'Afrique, où les gens savent très bien par où il faut passer. Et puis c'est pas les plus pauvres qui partent, ça coûte quelques milliers d'euros par personne quand même.
Donc, mais là, encore une fois, il y avait essentiellement des Soudanais et des Syriens. Alors qu'est-ce qu'il fallait faire?
Il y a un mélange. Alors, il y a soit la question de l'asile, soit la question des migrations économiques. La question de l'asile, à la longue, elle finira par être surmontée, il n'y aura pas des guerres civiles absolument partout. La question des migrations économiques continuera à se poser à perpétuité pour l'Europe, pour l'Australie, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique du Sud, pour le Canada, pour ceci, pour cela. Il faut entrer dans des systèmes de co-gestion de migration de longue durée, avec des fixations de quotas par métier pour l'immigration légale. Il faut qu'il y ait ça. Après, ça sera compliqué à mettre en œuvre. Ça veut dire beaucoup de batailles, mais ce que je décris, ça paraît à la fois simple et compliqué, mais c'est moins pire que de ne pas le faire et de réagir en ordre dispersé où tout le monde s'accuse dans tous les sens chaque fois qu'il y a un événement comme celui-là.
Ce qu'on a entendu cette semaine d'abord, Gaspard Ganzer, avec cette affaire de l'Aquarius, c'est le moins d'Europe ou c'est le plus d'Europe ?
Non, ce qui s'est passé cette semaine est inquiétant, puisque évidemment, on n'a pas vu de solidarité entre les États européens. Alors, il y a eu ce passage de mistigris entre l'Italie, la France, l'Espagne, même si c'est, comme l'a dit fort justement Jacques Courtois tout à l'heure, c'était à l'Italie de les accueillir, et l'Europe n'a pas donné une bonne image. La France non plus, d'ailleurs, n'a pas donné une très bonne image. Et on s'interroge d'ailleurs pourquoi. Parce qu'en fait, la France n'a pas particulièrement à rougir sur le long terme de sa politique migratoire. On est un pays, comme vous le savez, qui accueille une immigration importante tous les ans, principalement pour des raisons familiales, qui délivre 40 000 de nouveaux titres aux demandeurs d'asile tous les ans, particulièrement en 2017, et qui a une population largement métissée, issue de l'immigration. Aujourd'hui, vous savez, il y a près de 10 populations des gens qui sont en France, dans l'Hexagone, qui sont des immigrés, c'est-à-dire qui ne sont pas nés en France, et c'est une richesse exceptionnelle pour notre pays. Donc, on se demande pourquoi, finalement, sur ceci, on n'a pas fait un geste politique fort qui aurait consisté à montrer que nous sommes une terre d'accueil. Il y avait 600 personnes qui, en plus, à l'évidence, on le découvre au fur et à mesure, étaient issues de pays dans lesquels ils étaient opprimés, donc pouvaient rentrer dans la catégorie du droit d'asile. Donc, à mon avis, c'est ça qui m'a d'abord surpris. La deuxième chose, c'est que, malheureusement, compte tenu de la façon dont les choses ont été gérées, cette polémique était révélateur du point de vue français, du fait que nous n'avions pas été à la hauteur de nos engagements dans nos relations, d'une part avec l'Italie, puisqu'on n'a même pas honoré 10% de ce que nous devions faire dans notre relation avec eux, et même avec d'autres pays, parce qu'on a beaucoup dit que dans nos obligations vis-à-vis nos engagements vis-à-vis de la Grèce, on les avait mieux remplis, mais on les a pas non plus totalement remplis. Donc, ce qui est intéressant dans cette histoire, au-delà des polémiques qu'elle a suscitées, c'est de nous conduire à nous interroger sur quelle politique migratoire nous voulons en Europe. C'est ce qu'a expliqué Hubert Vernier tout à l'heure. Donc, il faut réfléchir à la construction d'une frontière qui ne soit pas une barrière infranchissable, mais une frontière dans laquelle on puisse gérer, contrôler, en admettant ceux qui sont éligibles au droit d'asile, en réfléchissant sur l'immigration économique, et évidemment permettant toujours l'immigration familiale, qui est quand même la principale source de l'immigration. Puis il faut aussi s'interroger sur ce que nous sommes, nous, la France. Et ça, je pense que c'est déterminant. Nous, les pays européens sont ensemble, mais ils ont chacun leurs valeurs. Et moi, je pense que la France n'est pas un pays comme les autres. Nous sommes un pays d'accueil, un pays ouvert sur le monde, et on doit conserver cela dans nos mots, dans nos actes.
François-Xavier Bellamy, la France, elle a trahi sa culture, sa mission d'accueil dans cette affaire ?
Non, honnêtement, je crois que c'est infiniment plus compliqué que ça. D'abord, on ne peut pas faire de cette affaire une affaire unique. Je veux dire par là que c'est d'abord le résultat d'une succession d'échecs. S'il y avait eu un bateau à la dérive, évidemment qu'il aurait été accueilli. La question n'est pas celle de savoir s'il faut sauver des gens qui sont sur un bateau en pleine mer.
C'est quand même une question.
C'est une question, mais si les Italiens ont dit non, c'est parce qu'ils ont accueilli des milliers de bateaux comme celui-ci.
700 000 depuis 2013.
Et que la question se pose du moment où vous finissez par dire que vous ne pouvez plus. Je ne dis pas que le moment soit arrivé pour les Italiens de dire qu'ils ne peuvent plus, mais en tous les cas, il y a forcément un moment où la question se pose. Et alors, on rentre dans une dimension authentiquement tragique du problème. Et je crois que la question des migrations va nous exposer à des choix qui sont objectivement tragiques, parce que nous avons vraiment un niveau de vie qui est très largement supérieur à celui de toutes ces personnes qui aujourd'hui vivent sur des continents où la vie est infiniment plus difficile, et que mécaniquement, ils vont être attirés par le modèle que nous représentons. Mais je crois que l'Aquarius incarne exactement ce que représenterait la dérive d'une fausse générosité, ou pardon, plus exactement d'une générosité authentique, mais qui ne se pose pas la question de sa responsabilité. Il y a dans les ONG qui travaillent aujourd'hui en Méditerranée une générosité authentique, extraordinaire, et qui permet de faire respecter cette solidarité en mer qui est l'un des lieux de l'humanité dans un milieu hostile. Mais en même temps, comment ne pas voir que ces bateaux sont le dernier relais dont les passeurs ont besoin pour pouvoir organiser la traite des êtres humains ? Aujourd'hui, Frontex l'a montré dans une enquête qui a eu lieu l'année dernière, des liens très directs existent entre les passeurs et ces bateaux humanitaires, pour une raison qui est parfaitement logique, c'est que si vous voulez aller sauver des gens qui sont en perdition en mer, vous avez plutôt intérêt à arriver avant que le naufrage se produise qu'après, ou en tous les cas juste au moment où il se produit. Et donc, là aussi, avec une parfaite générosité, ces bateaux humanitaires se sont mis en lien de façon informelle avec des passeurs et sillonnent aujourd'hui les côtes libyennes à une très grande proximité des côtes. Parce qu'évidemment, si vous avez des gens qui partent et qui coulent, bah, il vaut mieux être là pour les sauver. Donc en réalité, ce système est devenu un système organisé au service des passeurs et il produit des catastrophes. Parce que du coup, vous embarquez en vous disant qu'on va venir vous chercher et à la fin, ça ne se passe pas pour tout le monde et il y a des centaines de personnes qui meurent. Mais qui meurent parce qu'au fond, elles partent en ayant la certitude que il y a quelqu'un qui viendra les récupérer dans l'eau. Donc il y a quelque chose de terrible parce que encore une fois je crois que la générosité de ces équipes humanitaires est très réelle, que notre générosité dans le désir d'accueillir est très réelle, mais qu'à la fin nous produisons les catastrophes que nous voudrions éviter.
Dans cette affaire, il ne s'agissait pas forcément, et ça a été beaucoup rappelé, de donner des papiers à ces 627 migrants, mais de les sauver de la situation dans laquelle ils étaient. Alors, dans cette semaine, il y a eu soudain la voix espagnole, une semaine après avoir prêté serment. Pedro Sanchez, le chef du gouvernement issu du PSOE, c'est-à-dire le Parti Socialiste Espagnol, a pris un peu par surprise le contrôle de cette crise de l'Aquarius en faisant ce communiqué pour donner des instructions pour que l'Espagne respecte, je le cite, les engagements internationaux en matière de crise humanitaire, avec donc l'accueil de ce bateau Aquarius à Valence. Pourquoi elle a été si solitaire ou singulière, cette voix espagnole, Gérard Courtois?
Parce que dans le concert soit de refus italien, soit de rejet, tous les pays du groupe de Visegrad, Hongrie, Pologne, Slovaquie, etc., soit d'attitude identique, qui est maintenant celle de l'Autriche, d'une partie du gouvernement allemand, du Danemark, de la Belgique. Dans ce concert-là, et devant le silence pendant 2 jours de la France, c'est vrai que la réaction espagnole a surpris. On s'est dit, tiens, il y a encore des gens qui ont des réflexes élémentaires dans ce domaine. Voilà, maintenant, ça n'a pas empêché le ministre des Affaires étrangères du gouvernement espagnol, Borrell, de dire dans les colonnes du Monde quelques jours plus tard de dresser un constat extrêmement sévère sur l'échec de l'Europe sur ce terrain-là. La politique de l'autruche, je le cite, qui est menée par la plupart des pays par rapport à la question migratoire. Et je voudrais ajouter pas seulement les pays, mais aussi la Commission de Bruxelles, parce que la Commission a fait des propositions il y a quelques jours, le 12 juin, vous l'avez rappelé, pour renforcer Frontex. Formidable, on va passer de 1500 gardes-frontières à 10 000 gardes-frontières. Quand? Dans le cadre financier, comme on dit à Bruxelles, 2021-2027. C'est surréaliste. C'est surréaliste, ça fait 3 ans qu'on est confronté à ce problème, 3 ans qu'on est confronté de manière extrêmement aigu à ce problème, beaucoup plus longtemps sur la longue durée. Et Bruxelles, de manière extrêmement vigoureuse, volontariste, dit on va augmenter les moyens de Frontex à partir de 2021.
À la Saint-Glinglin. Voilà, en effet, c'est un peu surréaliste. Et c'est vrai surtout que cette semaine, on voit se dessiner, Hubert Védrine, deux Europes d'une certaine manière, ou deux conceptions de l'Europe. Gérard parle à l'instant du pacte de Visegrad qui date de 2017, c'est-à-dire d'un coup la Pologne, la Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie.
Auquel on peut maintenant ajouter le chancelier autrichien appelle l'axe.
L'axe, avec peut-être,
Berlin,
en tout cas,
Vienne, voilà, Rome.
Avec Berlin, j'allais y venir, c'est-à-dire cette même ligne idéologique où l'on décide de se recentrer sur les identités nationales, où on ferme les frontières, où on combat aussi cette logique de répartition des réfugiés dans l'Union.
Si je peux me permettre une question pour prolonger à Hubert Védrine, moi ma question c'est formidable la perspective que vous tracez.
C'est exactement la question que j'avais posée, c'est-à-dire comment on fait Schengen avec cette Europe-là.
Qui est d'accord pour mener cette politique-là, compte tenu de tous les pays qui sont en train de partir dans tous les sens?
En fait, il n'y a pas d'opposition vraie entre les gouvernements européens du nord, du sud, de l'est, de l'ouest sur la nécessité de la maîtrise des flux. Il n'y a pas d'opposition vraie. Il y a des bagarres sans fin au jour le jour par rapport à telle ou telle décision, telle ou telle
loi. Qui refuse.
Lorsque vous parlez d'une répartition des réfugiés, ces pays-là refusent le principe
Mais sur le principe général de la maîtrise des flux migratoires dans un monde où l'immigration vont continuer, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de désaccord là-dessus. Encore une fois, ça ne s'impose pas qu'à l'Europe. Il n'y a pas de désaccord théorique. Il y a plein d'autres domaines. En Europe, par exemple, est-ce que l'Europe doit devenir une puissance ou pas? Il y a plein de sujets où il y a des désaccords presque de fond, conceptuels. Ce n'est pas le cas, là. Donc c'est d'autant plus incompréhensible qu'on ne passe pas à l'acte majeur. Je viens juste une seconde sur les sujets d'avant. C'était évident que l'Italie allait casser la baraque un jour ou l'autre. Ils l'ont annoncé, il y a la situation qui a été rappelée. Deuxièmement, par rapport à Gaspard, quand sous Giscard on a décidé le regroupement familial, personne n'a imaginé les conséquences. Personne. C'est pas qu'une question de valeur ou de principe, c'est une question quantitative. Chez vos total 10 millions de gens qui veulent venir en Europe, on dirait, venez, vous êtes la bienvenue, il n'y a aucun problème. Mais il y a quasiment, dans le monde entier, des centaines de millions de gens qui... Donc personne n'a imaginé la suite, personne n'a imaginé l'aspect de guerre mondiale dans l'islam qui allait se développer entre l'ensemble des musulmans et la micro-minorité extrémiste terroriste. Donc il y a plein de choses qui n'ont pas été pensées il y a 20, 30, 40 ans. Donc tout ça arrive en vrac maintenant. D'autre part, la notion d'accueil, ça concerne l'asile. Il n'y a pas d'obligation d'accueil pour l'ensemble des gens qui veulent migrer économiquement. En Europe, on n'a pas exterminé les premiers occupants. Donc on ne peut pas comparer aux États-Unis, ni à l'Australie. C'est complètement différent. Donc on est obligé de gérer les flux. Et alors pour finir sur votre question, je crois qu'il n'y a pas de contradiction absolue, à condition qu'il y ait une crise majeure, que l'ensemble des Européens se disent il faut le faire de façon coordonnée, responsable, raisonnable, etc., etc. Sinon, on va aller de crise en crise, d'arc alpin, puis ceci, puis cela, dans une confusion générale. Mais quel est le gouvernement aujourd'hui en Europe qui n'a pas intérêt à dire on sanctuarise l'asile si c'est des gens vraiment en danger, et par ailleurs, on gère les flux? Quel est le gouvernement d'Europe qui n'a pas intérêt à mêler à ça les pays de départ qui voudraient y échapper?
Certes, il y a consensus sur ces sujets-là, mais y a-t-il consensus sur la notion de souveraineté? Est-ce que ces pays du pacte de Visegrad, ce qu'ils ne demandent pas avant tout, c'est la possibilité souverainement de choisir comment ils gèrent leurs flux migratoires?
Ils disent ça parce qu'ils ont le sentiment que le système est une passoire. Et que dès qu'un pays dit qu'il faudrait gérer un peu, on les accuse de xénophobie ou de sottises comme ça. Ce n'est pas le cas. L'ensemble des gouvernements veulent que ce soit géré. Les populations ne supportent plus le sentiment que c'est pas géré. En plus, c'est un peu injuste. C'est pas vrai que c'est pas géré du tout. Il y a des tas de choses qui ont été faites avant. Mais il faut vraiment quelque chose de majeur qui impressionne l'ensemble des opinions. Et si on allait dans le sens que je suggère, je sais bien, c'est compliqué, mais on ferait reculer un peu ce qu'on appelle le populisme, qui est un mot fourre-tout. On ferait reculer la protestation. Et les vrais Européens raisonnables pourraient reprendre l'initiative. Donc la maîtrise des flux, c'est pas la fermeture. Donc il faut attaquer à la fois l'extrême droite qui prétend qu'on veut fermer, l'ensemble des gens généreux qui ne se rendent pas compte qu'ils alimentent un système qui, jusqu'au fond de l'Afrique, alimente le départ des meilleurs éléments, les plus dynamiques, les plus nécessaires au développement de ces pays. C'est des gens incroyablement remarquables, les gens qui partent. En plus, ce n'est pas les pauvres, parce qu'il faut quelques milliers d'euros pour arriver en Europe, pour payer les passeurs et trouver les bons avocats, les bonnes ONG. Donc il faut prendre de front les différents morceaux de l'opinion, qui à mon avis se trompent, et qui empêche qu'il y ait cette maîtrise des flux. Après, on se disputera chaque année sur quels sont les quotas d'immigration légale. Mais déjà, ça serait une discussion moins saine et moins désespérante et moins inutile.
Gaspard Ganzer, lorsque le président Macron dit « ne cédons pas à l'émotion que certains manipulent », ça fait un peu sens avec ce que vient de dire Hubert Védrine, ça suscite chez vous quel genre de commentaires ou de réactions?
Il ne faut jamais se faire manipuler, il y a toujours des arrière-pensées chez les uns et les autres, il ne faut tomber dans aucun piège politique sur ce sujet. Mais moi, je n'étais pas très à l'aise avec cette phrase d'Emmanuel Macron. J'avais préféré l'attitude d'Emmanuel Macron pendant la campagne électorale, en réalité. D'ailleurs, c'est une des raisons qui m'a conduit à voter pour lui, parmi les autres raisons qui m'ont conduit à voter pour lui. Qu'avait-il dit à cette époque-là? Il avait dit qu'il avait rendu hommage à Angela Merkel et à son attitude vis-à-vis des migrations. Et il avait un peu mis un coin dans le gouvernement contre le gouvernement de Manuel Valls en disant que la France n'avait pas été assez généreuse vis-à-vis des réfugiés. Et moi, j'étais fier d'avoir un futur président de la République qui portait des valeurs universalistes, d'ouverture au monde. Parce qu'il a la gestion. Et là, moi, je me retrouve dans l'idée de gérer une frontière européenne extérieure solide. Parce qu'évidemment, c'est ce qu'il faut, sans remettre en cause l'immigration familiale, auquel, même si on l'avait mal utilisé, mal anticipé, je reste très attaché. Mais les mots ont aussi de l'importance. Et il y a un combat idéologique à mener en France, là, pour le coup, sur cette question-là. Si on considère, moi, je n'aime pas qu'on se laisse attirer, ce qui n'est pas le cas ici autour de la table, par les valeurs et la grille de lecture de l'extrême droite. Il faut tenir bon dans le combat politique en assumant que la France est un pays d'immigration, un pays qui intègre les étrangers, que c'est son creuset et que ça doit rester ses valeurs et son avenir.
Mais statistiquement et historiquement, c'est contestable, hein ?
Il y a un Français sur quatre qui a, chaque Français, un Français sur quatre a au moins un de ses grands-parents étrangers dans sa
famille. Dans l'étranger, c'est plein d'Européens dans ce calcul.
Donc oui, il y a des Européens.
Il y a un phénomène totalement nouveau par rapport à...
Oui, mais moi, je ne choisirais, je ne ferai jamais le tri entre les étrangers, entre les Européens et le reste du monde. Mais ça, c'est ma...
Non, mais en termes d'accueil, en termes de réaction,
c'est peut-être pas exactement la même chose.
Faut faire attention au langage qui alimente l'extrême droite.
Oui, bah c'est exactement le débat que je sous-entendais. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de l'extrême droite sur ce sujet.
Il ne faut pas l'alimenter non plus.
Je pense qu'il faut avant tout ne pas en avoir
peur. Par des confusions analytiques.
À mon avis, on n'en sera pas d'accord sur ce sujet.
Oui, oui. Non, mais il y a un désaccord d'analyse, disons, historique. Mm. À partir de quand ce que dit Gaspard devient exact, c'est très très récent en fait, ça, par rapport à l'histoire de ce pays.
François-Xavier Bellamy.
Ce qui est sûr, en tous les cas, c'est que le sentiment que les populations peuvent avoir d'une absence totale de maîtrise par leurs gouvernants de cette question migratoire peut provoquer, malheureusement, une forme d'effondrement de l'humanité en nous. Et ça, ce serait extrêmement grave. C'est-à-dire que la réponse au défi migratoire ne peut pas passer par une forme de fermeture inhumaine à la souffrance des autres. Et donc, il faut assumer, je crois, la complexité et même la complexité tragique, je le disais, de cette question. Ça n'enlève rien au fait que nous devons regarder en face les conséquences de ce que nous considérons comme étant généreux. On peut trahir aussi à coup de bonnes intentions, et on peut trahir même ce qu'on voudrait servir. Et je prendrai juste un exemple, on parlait du regroupement familial à l'instant. La loi Asile et Immigration, qui a été tellement critiquée, porte une disposition qui est une transcription d'une directive européenne qui me paraît absolument catastrophique, qui est l'extension du regroupement familial aux mineurs étrangers isolés. Alors effectivement, on se dit, un mineur qui arrive en France et qui n'a pas sa famille, c'est terrible. Aujourd'hui, il peut faire venir ses parents, mais il ne peut pas faire venir ses frères et sœurs. Donc ça limite quand même la capacité de regrouper sa famille en France. On se dit effectivement que c'est une situation terrible. Mais cette directive européenne qui est aujourd'hui transcrite par le gouvernement actuel dans le droit français, en fait, elle va constituer une catastrophe pour beaucoup de mineurs en Afrique. Quand on connaît le taux de fécondité de l'Afrique, quand on connaît les conditions de développement de l'Afrique, on imagine bien que beaucoup de familles vont faire partir leurs enfants avec le sentiment que le premier qui arrivera en Europe aura obtenu le succès pour toute la famille. Et donc on met en danger de façon terrible des centaines, des milliers peut-être de mineurs en les jetant sur les routes de l'exil et sur les routes des pires dangers qui les attendent. Et je crois que c'est sur ce point qu'on ne peut pas faire comme si nos intentions les plus généreuses ne pouvaient pas avoir des conséquences catastrophiques.
Ce sera le mot de la fin sur cette première partie, Gaspard Ganzer, mais vous qui êtes un homme de gauche qui avait servi le président Hollande, comment vous réagissez quand, d'une certaine manière, François-Xavier Lamy vous dit que l'époque vous invite à ne plus intégrer la générosité dans un raisonnement ou dans un choix politique?
Non, je ne dis pas qu'il faille plus penser de manière généreuse, mais qu'il faut penser la conséquence de nos actes. Et la vraie générosité consiste aussi à être responsable.
Mais je pense qu'il ne faut pas s'auto-caricaturer, ce n'est pas d'ailleurs du tout ce que vous venez de faire. On peut tout à fait avoir un discours positif, assumé sur la richesse de l'immigration, la place de l'étranger dans notre société, sans pour autant devenir totalement irresponsable. Je pense qu'il faut éviter cette dichotomie, parce qu'en fait, cette dichotomie, cette opposition nourrit justement les débats sur l'extrême. Oui, on peut assumer d'être une nation généreuse, universaliste, sans pour autant faire n'importe quoi. Et moi, puisqu'on a parlé de la loi sur asile et immigration, je ne connaissais pas dans le détail cette disposition qui vient d'être énoncée. En revanche, il y a une autre qui, moi, personnellement, m'a beaucoup plus choqué, c'est l'extension des possibilités de rétention pour les mineurs. Le gouvernement a dit qu'il allait revenir sur ce sujet. J'ai hâte.
Merci beaucoup. On va quitter l'Europe, on va changer de continent, direction l'Asie et peut-être le monde d'après.
France Culture, L'Esprit Public, Émilie Aubry.
J'y vais au feeling, au contact, c'est comme ça que je fonctionne, avait expliqué Donald Trump avant de partir vers le sommet de Singapour. Un spectacle encore plus creux qu'on ne s'y attendait, avait-on pu lire dans la presse. Avec d'abord la scène surjouée des deux dirigeants américains et nord-coréens s'approchant l'un l'autre pour une longue poignée de main. Un sommet bref, moins de 12 heures, et une déclaration commune qu'il eût été difficile de qualifier de précise et détaillée. On y trouvait mention que la Corée du Nord s'engageait à œuvrer à la complète dénucléarisation de la péninsule coréenne, ce qui pour les experts ne voulait rien dire, tant que l'on ne disposait pas d'un inventaire détaillé des stocks nord-coréens et d'un calendrier de démantèlement. Pas de traité de paix non plus, mais l'engagement de cesser ces exercices militaires qui relevaient de la provocation.
Le grand gagnant s'appelait sans doute Kim Jong-un, qui se trouvait enfin reconnu comme le dirigeant d'une grande puissance. Bref, une semaine diplomatique encore dominée par l'agitation trumpienne et qui pouvait se résumer par le shakespearien « beaucoup de bruit pour rien », tandis qu'en silence, d'autres s'organisaient tout en discrétion et en efficacité. Réunion par exemple de l'Organisation de coopération de Shanghai dimanche dernier, qui contrastait avec l'échec du G7 au Canada. L'entente affichée, Poutine-Xi Jinping, la participation de l'Iran, l'Inde et le Pakistan, l'unité pour soutenir le traité sur le nucléaire iranien, des objectifs communs sur le commerce, le terrorisme et la Syrie, le président chinois s'offrant le luxe facile de déclarer « Rejetons les politiques égoïstes à courte vue, étroites et fermées. Nous devons maintenir les règles de l'OMC, du système commercial multilatéral et construire une économie mondiale ouverte, ce qui ne manquait pas de sel, et en disait long sur le rôle normatif qu'entendait désormais jouer la Chine de Xi Jinping. »
La ville de Qingdao en Chine accueille le sommet annuel de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, qui regroupe, outre la Chine, la Russie, l'Inde, le Pakistan et quatre anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, le Tadjikistan et le Kyrgyzstan. Et si c'était de ce côté-là de la planète que se trouvait le vrai pouvoir, la vraie puissance?
Comme on dit en Chine, il faut savoir pêcher loin. Le régime de Pékin vient de marquer un point et rappelle à tous qu'il entend rester un acteur incontournable dans le jeu et qu'il ne se laissera pas déborder par le rapprochement spectaculaire de Donald Trump et Kim Jong-un, mis en scène brillamment à Singapour. Le message est valable aussi pour le jeune dirigeant nord-coréen qui est arrivé dans la ville-État à bord d'un avion d'Air China et qui a repris le même avion pour rentrer à Pyongyang.
Gérard Courtois, la Chine, pas invitée au sommet de Singapour, mais on vient de l'entendre, c'est un Boeing 747 d'Air China qui a transporté depuis Pyongyang le dirigeant nord-coréen jusqu'à Singapour. Ce logo Air China, qu'on a pu voir sur toutes les télés du monde, qu'est-ce qu'il envoyait comme message?
Il envoyait comme message, j'osais reprendre un slogan qu'on a entendu il y a quelques années en France, l'hyperpuissance chinoise, c'est maintenant. Voilà, et le président américain lui donne un sacré coup de main et lui a donné en deux occasions, il y a quelques jours, un sacré coup de main, et au G7 avec ses, entre guillemets, alliés, et à Singapour avec l'héritier de la dynastie Kim. Il y a deux façons de communes d'analyser le comportement du président américain. Soit on considère que c'est un imprécateur brouillon, une sorte de matamor, soit on considère que c'est un démolisseur méthodique et dangereux. À l'évidence, les Chinois ont tiré la conclusion qu'il est les deux à la fois et que ça leur sert. Il est un imprécateur brouillon et, au fond, c'est un signe de faiblesse. Et il a accepté à Singapour, pour autant qu'on le sache, un marché qui repose pour l'instant sur des promesses floues qui ont déjà été prises par les précédents gouvernements ou dirigeants nord-coréens, son père en particulier, il y a 20 ans ou 25 ans, apparemment sans aucune garantie que ce sera une opération, que ça conduira à une opération de dénucléarisation sérieuse, vérifiable, pérenne, etc. Donc, il a cédé et il a au passage reconnu, permis au régime nord-coréen d'obtenir une légitimité qu'il recherchait, qu'il n'avait jamais obtenue. Avec qui plus est, en direct avec le président américain. Donc ça, c'est le matamor. Très bien pour les Chinois, un matamor. Si en plus il fait la démonstration au G7 qu'il est un démolisseur de tout ce qui a construit le système économique mondial et géopolitique mondial depuis 70 ans, c'est encore mieux, formidable. Mais je pense que de manière très rationnelle, je pas dans la tête du président chinois, Dieu merci, mais de manière très rationnelle, Trump leur sert sur un plateau des signes à la fois de faiblesse et de déconstruction du système mondial.
Je me demandais d'ailleurs comment un philosophe comme François-Xavier Bellamy avait regardé ces deux images de la semaine dernière. La première, celle que l'on regarde le plus, celle que l'on commente le plus, nous d'ailleurs les premiers dans ce studio dimanche dernier, les Trumpitudes du sommet du G7. Et puis pendant ce temps, ce qui se passait dans cette petite station balnéaire de l'Est de la Chine, on en parlait très peu en Occident.
On n'en a effectivement quasiment pas parlé, mais ce qui est frappant d'ailleurs, c'est de voir à quel point la Chine est à peu près absente de nos préoccupations. Mmh. On se pose la question ce matin, mais en réalité, c'est une préoccupation qui nous habite finalement assez peu dans nos débats politiques, économiques, en tout cas certainement pas à la hauteur de l'influence réelle du monde chinois aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que la Chine nous renvoie aussi à nos propres faiblesses du point de vue philosophique, puisque vous posiez la question sur ce terrain. Et notamment, je trouve, dans le rapport au temps et à la responsabilité politique, on voit bien que les Chinois n'ont pas besoin de procéder par mise en scène brutale et bruyante, parce qu'en réalité, ils ont le temps devant eux. Ils
c'est
travaillent
l'avantage
pour
des
le
dictatures,
très long terme.
Non, aussi.
C'est l'avantage un autre rapport des au dictatures, temps. Sans aucun doute. C'est aussi l'avantage, sans doute, d'un certain rapport au temps, de la culture chinoise et de la conscience chinoise, qui fait que nous avons, et le monde occidental, et l'Europe en particulier, se définit par une forme d'eschatologie particulière, où nous avons sans cesse le sentiment d'être à la fin des temps, à la fin du monde, au bord de la crise, au moment de rupture, et qu'il y a toujours une sorte d'urgence de la décision qui pèse sur nous. Et nous avons aussi le sentiment, et c'est effectivement le talon d'Achille des démocraties, en particulier d'ailleurs face à des enjeux de bouleversement économique majeur, ou bien face à des enjeux écologiques qui engagent le temps long, le talon d'Achille des démocraties, c'est de devoir répondre à une demande qui s'exerce dans l'instant, mais c'est aussi notre noblesse, bien sûr. Face à nous, c'est vrai que les Chinois et le pouvoir chinois en particulier, qui n'est pas aussi solide que nous pourrions le croire de l'extérieur et qui a lui aussi ses défis à gérer, mais a malgré tout cette propriété particulière de pouvoir travailler pour le très long terme et pour la Chine des siècles à venir, alors que nous pensons généralement, même pas seulement à la fin du quinquennat, mais aux prochaines élections intermédiaires ou bien au sondage du week-end qui vient.
Alors c'est vrai qu'on lit beaucoup de choses, Hubert Védrine, sur cette stratégie ou cette diplomatie de Xi Jinping qui serait foncièrement différente de celle de Deng Xiaoping, justement parce qu'au-delà de la notion de puissance économique, peut-être prétendrait-elle à cette notion d'hyperpuissance dont vous êtes, je crois, l'inventeur, c'est-à-dire que la Chine, pour la première fois, voudrait à la fois être une puissance économique, en même temps une puissance culturelle, une puissance militaire. On parle beaucoup de la façon dont elle est en train de construire des bases militaires un peu partout dans le monde, notamment en Afrique, notamment à Djibouti. Il y a cette ambition-là et c'est cela qui change tout aujourd'hui.
Votre idée de comparer Trump et la Chine, c'est une bonne idée parce que Trump est une caricature, mais enfin, c'est un président américain, donc occidental, dans un Occident qui est sur la défensive. Depuis qu'on se rend compte que loin d'avoir tout gagné après la fin de l'URSS, c'est la fin de l'histoire et on va imposer nos valeurs partout, c'est l'inverse, c'est l'histoire qui s'est remise en marche, notamment du côté des émergents qui veulent prendre leur revanche, voire se venger, et la Chine en tête. Donc c'est intéressant de comparer les deux avec le système occidental démocratique qui devient ce que l'on voit tous les jours et la Chine. C'est pas uniquement parce que c'est une dictature chinoise. Et la Chine s'inscrit dans la durée. Et d'autre part, leur système, les 80 millions de membres du Parti communiste chinois, il y a quand même une sorte de sélection dans leur système. Ils mettent au pouvoir des ingénieurs de la décision publique qui résonnent sur 10, 20, 30, 40 ans par rapport à ça. Donc ça donne une espèce de force. C'est incroyablement déstabilisant pour les Occidentaux qui pensent depuis au moins les Lumières qu'ils sont à l'avant-garde de l'humanité et qu'ils représentent des valeurs que les autres vont devoir rejoindre petit à petit, laborieusement, et si se presse pas, on va les pousser un peu à coup d'ingérence ou de sanctions, donc c'est quand même assez déstabilisant. Alors après les péripéties, il y a 36 péripéties, et c'est vrai que les Chinois, à mon avis, je pense pas qu'ils soient portés par leur culture et leur histoire à vouloir, comme les chrétiens devenus l'Occident, ou les musulmans, je pense pas qu'ils soient dévorés par une rage prosélyte, et je ne pense pas qu'ils veuillent nous convertir de force aux valeurs chinoises universelles.
Même si on entend beaucoup parler, vous savez, de ces instituts Confucius qui ont justement vocation à s'implanter un peu partout dans le monde pour diffuser la culture chinoise.
Diffuser, c'est une chose, convertir, c'en est une autre. Mais c'est vrai qu'à la taille qu'ils ont, la richesse, le nombre, ils intimident déjà 70, 80 pays où il y a déjà des sortes de lobbies chinois. Dès que quelqu'un dit, il faudrait peut-être faire attention quand même à l'équilibre. Il y a aussi 3, 4 personnalités de premier plan qui disent, comme chez nous on dit par rapport à Trump, attention, il ne faut pas les provoquer quand même, il faut faire attention. Donc je ne pense pas qu'ils aient tout à fait choisi, et je pense que la suite de l'épopée chinoise dépendra un peu de du reste. Est-ce qu'il y aura une sorte de coalition, de cristallisation de l'ensemble de ceux que la montée de la Chine à ce point-là inquiète, entre le Japon, l'Inde, l'Australie, peut-être l'Europe, on ne sait pas très bien. C'est pas sûr, en fait, la suite n'est pas sûre. Quand le président Macron à Pékin a parlé de symétrie, à propos des routes de la soie, c'est une très bonne idée, bien sûr. Mais pour construire les éléments de la symétrie, il faudrait évidemment que, au minimum, les Européens soient capables de s'organiser pour poser des exigences, d'être un peu plus vigilants, alors que les Chinois entrent comme dans du beurre dans le système. Ils ont déjà une sorte de groupe qui se réunit avec eux, qui est l'ancienne Europe de l'Est, plus l'affaire de la Grèce, ça. Donc l'affaire de la Chine est un révélateur, peut-être plus important à terme que la gestion insuffisante des flux migratoires dont on a parlé tout à l'heure, qui nous renvoie nous-mêmes, en fait. Comment on s'organise, nous, par rapport à ça ?
On peut encore s'organiser face à ce moment de bascule du monde où, en effet, nous continuons, nous, de regarder ce qui se passe dans le vieil Occident alors que l'avenir se joue en Orient, Gaspard Ganzer.
Je peux que souscrire à ce qui a été dit par les trois précédents intervenants, parce que ce qui m'a frappé, moi, quand je travaillais moins longtemps que Hubert Védrine pour le gouvernement français, un peu au Quai d'Orsay et auprès de François Hollande à l'Élysée, c'est qu'il nous manquait de bonnes grilles de lecture, malgré la qualité de nos diplomates, pour comprendre ce qui se jouait là-bas. On avait toujours le regard qui nous portait vers les États-Unis, vers Barack Obama, vers Trump, vers l'Europe, et on avait bien raison, mais on savait que la Chine, c'était important, qu'il fallait y aller. Tout le monde disait, ah oui, Angela Merkel, elle se rend tous les ans en Chine pour faire des affaires. On savait qu'il y avait une question d'influence culturelle et politique. Mais en fait, je pense qu'on ne comprend pas encore parfaitement ce que fait la Chine et ce que joue. La partie que joue la Chine. Moi, je souscris à ce qu'a dit Hubert Védrine à la fin, notamment quand il dit, je pense que les Chinois n'ont pas du tout l'intention de nous annexer, ni de nous soumettre. C'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est qu'ils sont beaucoup plus grands que nous, beaucoup plus nombreux. Quelque part, ils se suffisent à eux-mêmes. Et tant que leurs intérêts prospéreront conformément à ce qu'ils souhaitent, ils le feront. Donc nous, il faut qu'on soit dans cette logique de conciliation d'intérêts avec nos modestes moyens de Français et, j'espère, d'Européens, pour essayer que ça ne se fasse pas à notre détriment. Mais je n'ai pas du tout le sentiment qu'ils soient dans quelque chose de, évidemment, militariste, ou même de dominateur vis-à-vis de nous. Ils ne cherchent pas à dominer le monde. Par contre, à chaque fois qu'ils ont l'occasion d'étendre leur influence, ils le font. Et on n'en a pas parlé cette fois, mais on en a déjà parlé ici. Moi, je suis frappé par la manière dont, avec Alibaba, avec d'autres entreprises, ils ont réussi à aller sur le terrain d'Internet, de l'électronique, en prenant vraiment énormément d'avance sur l'intelligence artificielle et sur les modes de communication. Et c'est ça le défi pour nous. Il faut qu'on soit fort aussi dans ces domaines-là si on veut tenir tête.
Avec notamment la façon dont le marché africain est inondé de produits chinois, par exemple ces téléphones Huawei à 50 euros qui permettent à l'Afrique ce décollage économique. Gérard Courtois, c'est vrai qu'on en parle finalement assez peu dans la presse française. Alors bien sûr, dans les pages internationales, on a régulièrement des choses sur cette actualité chinoise. C'est quelque chose qu'on ne veut pas voir, ce monde en train de changer.
Moi, je trouve qu'on en parle bien et beaucoup et fréquemment. C'est
que le décalage la semaine dernière était incroyable entre le fait qu'on parlait du G7 et qu'on ne parlait pas du tout
absolument
ce qui se passait à l'est de la Chine.
C'est exact. En relisant quelques papiers, notamment de mon camarade et collègue Frachon, je suis retombé sur cette anecdote qu'il racontait dans un de ses papiers récents sur ce moment du mois de septembre 2017 où la totalité des fonctionnaires chinois ont reçu l'ordre du parti de s'arrêter au milieu de leur journée de travail pour regarder la télévision. Et à la télévision, une émission qui était une sorte d'exercice imposé, faite par la télévision d'État, qui s'appelait « La Chine et sa diplomatie de grande puissance ». Donc il y a quelques millions de fonctionnaires chinois qui ont été invités de manière très ferme à s'imprégner de cette philosophie-là et de cet objectif-là. Leader global, c'est le terme qui est employé par Xi Jinping et lors du dernier congrès. Et l'horizon, il n'est pas à très long terme, c'est 2025. La Chine doit être un leader global en 2025. Alors ça passe par quoi ? Ça passe par... Il y a quand même une part de militarisation dans l'environnement immédiat.
En mer de Chine, par exemple.
Ça passe par l'investissement intéressé... parce qu'il y a des matières premières en retour, dans les banlieues, appelons ça les banlieues pauvres, ou les régions pauvres de la planète, l'Afrique notamment, ça passe par les routes de la soie qui permet, la nouvelle route de la soie qui permet de relier la Chine à ses marchés mondiaux, et ça passe aussi, il faut quand même pas l'oublier, par la puissance d'investissement financier de la Chine dans tous les pays qui sont preneurs d'investisseurs financiers. Et c'est un investisseur qui a des poches très profondes. On le voit en France, on le voit en Europe. Les Américains commencent à mettre des barrières parce qu'ils trouvent que c'est trop. Mais en Europe, il y a bien des pays qui sont ravis de trouver des investisseurs chinois. Donc, il y a un travail méthodique qui n'est pas, effectivement, qui n'est pas de l'ordre de la conversion ou de la conquête, mais qui est de l'ordre de du pouvoir d'influence, plus que d'influence.
La diffusion et pas la conviction, comme le résume assez bien Hubert Védrine.
De la puissance économique, diplomatique, sur l'ensemble de la planète, partout où c'est possible.
Conclusion Hubert Védrine sur ce nouveau monde qui voit s'affronter ou se regarder d'un côté cette nouvelle conception de la puissance chinoise et de l'autre l'Amérique de Donald Trump. Est-ce qu'entre ces deux mondes-là, forcément, un jour, il y a confrontation ?
Pas forcément, parce que les Chinois peuvent grignoter progressivement sans qu'il y ait confrontation, sauf peut-être pour la question de le contrôle des mers de Chine, la libre circulation haute mer. Mais je dois ajouter que la diplomatie chinoise, il y a une vraie continuité. Enfin, après Mao, qui a refait, avec une cruauté monstrueuse et des dizaines de millions de morts, il a refait la Chine. Après Deng Xiaoping, a dit « on va se développer ». C'est lui le père de la Chine qui a changé le monde, c'est pas Mao. Et Deng a dit « on va aller le plus loin possible, mais sans provocation, profil bas ». Et Xi Jinping, il ne fait pas le contraire. Il dit simplement, au point où nous sommes arrivés, on n'a plus besoin de se masquer. Donc c'est quand même la continuité. D'autre part, ils ont quand même un pouvoir maintenant de blocage, à mon avis, dans des dizaines de pays, comme je l'ai dit, pour bloquer, pour empêcher toute décision contraire à leurs intérêts. Donc ce n'est pas de l'ordre de la conversion, ce n'est pas notre discours à nous sur les valeurs. Et c'est un sujet beaucoup plus grand que les provocations de Poutine, hein. Regardez l'Occident qui est surexcité contre Poutine parce que les Russes ont un peu d'ingérence dans les élections comme les Américains l'ont fait à la puissance 10 pendant 70 ans. Bon, c'est bien atroce que les Poutine le fassent. Bon, le sujet chinois est 10 fois plus important que le sujet de Poutine. Et par ailleurs, c'est une idiotie stratégique occidentale de repousser la Russie du côté chinois.
Cette toute petite dernière
question. Dans la comparaison à long terme,
cette organisation internationale, cette OCS, qu'est-ce qu'elle signifie ? Est-ce qu'elle peut représenter l'équivalent, version 21e siècle, version puissance chinoise
du point de vue chinois, l'organisation de Shanghai, enfin, à mon avis, soit ils se disent on va regrignoter le système mondial qu'on va reconfigurer à notre façon. Si on n'y arrive pas à un moment donné, quand on sera vraiment fort, on va faire une crise qui sera beaucoup plus forte que la prise en otage du monde entier de Trump dans l'affaire de l'Iran, parce qu'on est tous dépendants des dollars, etc. Ils feront ça un jour. Ou alors, s'ils n'y arrivent pas, ils vont bâtir une organisation qui deviendra quasiment concurrente. Mais ils ont plusieurs fers au feu, dont l'organisation de Shanghai, entre autres.
Merci pour ces précisions. La Chine qui ne participe pas, si je m'abuse, à la Coupe du Monde de foot d'ailleurs, mais qui envoie ses entreprises pour sponsoriser un événement sportif mondial qui a été beaucoup délaissé par les marques occidentales, échaudé par le scandale de la corruption de la FIFA. Vous l'aurez compris, on va parler de foot. Pourquoi ? Parce que quatre hommes sur ce plateau et parce que tout le week-end, France Culture, et oui, organise une thématique autour du sport. Et on comprend bien pourquoi. Alors nous, on s'est posé une question qui nous semblait très esprit public. Et si Macron avait l'obsession de la gagne.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Comme une tradition depuis 20 ans.
Allez, bleus !
Avant chaque compétition, tous les présidents s'offrent un peu de lumière auprès des bleus.
On ne réussit rien sans les efforts. Et donc, moi je crois que dans ça, et c'est ce dont le pays a besoin.
Message politique à peine voilé et ambition sportive clairement affichée.
Et j'espère vous retrouver dès le 10 juillet et après notre fête nationale le 15 pour ramener la coupe à la maison.
Pas de quoi mettre la pression sur les bleus, même quand le président de la République n'envisage rien d'autre que la victoire.
C'est votre génération qui doit relever la sienne et mettre la deuxième étoile. Moi je compte sur vous.
La deuxième étoile, hein, Olivier.
J'irai en demi et j'irai en finale.
Ce serait réussi, un quart de finale selon vous ?
Une compétition, elle est réussie quand elle est gagnée.
François-Xavier Bellamy, une compétition réussie, c'est une compétition gagnée. Cette phrase, qu'est-ce qu'elle nous dit de la philosophie macronienne ?
C'est vrai que quand on rentre dans une logique de compétition réussie, c'est une compétition gagnée. On vient de commémorer le succès de la France en 98 est clairement la victoire est indéniablement au cœur de la réussite de, dans la compétition.
Même si Monsieur Coubertin nous avait dit que l'important c'était de participer.
Mais la vérité c'est que, en fait, il faut dire deux choses. Je pense on peut dire que la tension vers la victoire nous pousse à nous dépasser, et c'est vrai dans chacun des plans de notre vie, sur le plan de la vie économique, quand on crée une entreprise, c'est pour réussir. Sur le plan de la vie politique, sur le plan de la vie associative, dans tous les lieux de notre vie, la tension vers la réussite nous pousse à nous dépasser, à donner le meilleur de nous-mêmes. Si on ne voulait pas réussir, on ne donnerait pas du tout ce que nous sommes capables de montrer lorsque nous sommes tendus vers un but. Et donc, il y a quelque chose qui se fait qui, comme un mécanisme psychologique, dans la réussite et dans le désir de réussir, dans le désir de la victoire, contribue à créer quelque chose en nous qui, en fait, dépasse de très loin la valeur de la réussite. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui dépasse, évidemment, la coupe qu'on ramène à la maison, mais dans le fait de vouloir la ramener à la maison, quelque chose se joue d'essentiel, et donc il faut continuer de vouloir la ramener à la maison. C'est vrai peut-être que l'important c'est de participer, mais ça n'enlève rien au fait que psychologiquement, il faut vouloir gagner. Et la dernière chose qu'on peut dire, c'est que pour le coup, c'est vrai aussi que si dans la compétition, la victoire est nécessairement le but qui s'impose de soi-même, la vie n'est pas une suite de compétition. Et que si j'avais une toute petite nuance à apporter sur ce point au discours d'Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat, c'est que souvent on a un peu le sentiment que le monde est rempli de gagnants ou de perdants, de gens qui réussissent ou de gens qui ne sont rien. Il faut vouloir gagner dans les compétitions qui nous attendent, et il faut savoir en même temps que la vie humaine est autre chose qu'une suite de compétitions.
Et Gaspard Ganzer, opine du chef.
Oui, j'ai la culture de la gagne, j'ai fait du sport toute ma vie, j'en fais encore aujourd'hui, et je pense que quand on joue une partie, même dans son jardin avec ses enfants, il faut chercher à gagner, il faut, parce que ça permet de se dépasser et d'aller plus loin et de grandir. Et les grandes victoires sont les plus belles, elles sont dans nos souvenirs, on l'a vu sur 98. Mais il y a aussi des défaites magnifiques qui nous marquent pour toujours. Moi, j'étais tout petit en 82, parce que je suis né en 79, je n'avais que 3 ans. Mais cette défaite magnifique contre les Allemands en demi-finale de la Coupe du Monde, je pense qu'elle a quasiment autant marqué l'histoire du foot français que la victoire de 98, parce qu'elle était aussi incroyablement romantique. On peut apprendre de cette manière-là. Et je trouve ça aussi magnifique que dans le sport, on peut perdre, comme en 2006, en contre l'Italie en finale de la Coupe du Monde, et pourtant ça reste magnifique.
Alors je ne pensais pas que vous seriez à ce point dans le commentaire sportif, puisque je rappelle ma question qui était de savoir si le président Macron avait l'obsession de la gagne. Peut-être que Gérard Courtois va me répondre avec plus de précision.
Et moi je pense que le président Macron s'inscrit dans une tradition présidentielle française de rapport aux grands événements sportifs. Alors il y a deux modèles, il y a le modèle de Gaulle. De Gaulle c'était comme Churchill, hein, no sport. Mais quand les Français rentrent des Jeux Olympiques de Rome sans aucune médaille d'or en 1960, là, le camouflet est terrible. Le rang de la France est atteint. Alors, il y a cette phrase que je n'imiterai pas dans le ton, mais où il dit...
Quel dommage.
Non, je ne sais pas. Où il dit, la France rayonne par ses penseurs, ses savants, ses artistes, mais elle doit aussi briller par ses grands sportifs. Et à partir de là, il y a une politique nationale qui est mise en œuvre par Maurice Herzog, de détection, d'équipement, de création de l'INSEP. Enfin, il y a une politique sportive nationale qui est mise en œuvre. Ça, c'est le rang de la France. Et je pense que pour Macron, c'est important. Et puis, il y a l'autre modèle, qui est le modèle Chirac. C'est le modèle effet miroir. Chirac, en 98, est au fond du trou. Il a perdu les élections législatives. Il a dissous l'Assemblée nationale. Il a été battu. Et il devient le meilleur supporter de l'équipe de France. Jospin était un vrai sportif. Mais il ne savait pas faire partager ça. Chirac n'était pas du tout un sportif, mais il savait faire partager ça. Et au fond, Macron, je suis persuadé qu'il essaye de marier les deux. À la fois la défense du rang de la France, sa culture personnelle de la gagne, bon, ça qui n'est pas une surprise, et puis l'aura des sportifs et l'enthousiasme qu'ils peuvent susciter dans l'opinion et parmi les Français. Voilà, essayer de réunir tout ça dans une même démarche victorieuse.
Sachant, Hubert Védrine, que la géopolitique du sport, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps.
Ah oui, mais je suis totalement incompétent sur ce point. Et je renvoie aux ouvrages de Pascal Boniface.
Absolument,
sur
qui est
ce
un
point.
Grand spécialiste de ces questions-là.
Par contre, sur votre sujet, ça me semble évident que l'esprit de gagne est inhérent à la compétition politique. On ne se lance pas dans une compétition présidentielle qui est la plus dure de toutes sans être animé par cet esprit. C'est évident. Alors après, à quel moment il se combine le désir de gagner et le désir de faire gagner la France. Normalement, ça...
Lorsque François-Xavier Bellamy dit que ça peut avoir l'effet de créer un système où, où s'affrontent de façon comme ça frontale et manichéenne d'un côté les gagnants, de l'autre les perdants, ça vous semble dire quelque chose de vrai du macronisme ?
Non, je pense que ce qui l'anime, c'est l'idée de remettre la France en mouvement, donc il est plutôt le parti du mouvement contre le parti du statu quo, enfin, c'est plutôt ça, et c'est les clivages qui peuvent à un moment donné choquer pendant trois minutes, c'est un instantané, c'est pas une sorte de division combinée à une sorte de fatalité d'un côté ou de l'autre, c'est la question de la remise en marche. Mais pour moi, la vraie question, c'est ce que j'ai dit à 30 secondes, c'est il faut que le désir de gagner, l'ambition dans le meilleur sens du terme, se combine à un moment donné avec l'ambition pour le pays, toutes catégories confondues, parce que la remise en marche, en principe, profite à tous, si ça fonctionne bien.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les quatre. Très rapide conseil de lecture. Je renvoie sur l'excellente émission de mon ami Raphaël Bourgois, Avis Critique, qui débat justement du livre de Jean-Pierre Cabestan qui s'intitule « Demain la Chine, démocratie ou dictature ?» Une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Conseil de lecture rapide, Gérard Courtois.
Oh, je n'ai pas préparé, je suis désolé.
Un petit clin d'œil, « L'art de perdre » d'Alice Zeniter, qui à la fois répond à la dernière question, mais surtout répond au premier sujet qu'on a évoqué sur l'immigration.
François-Xavier Bellamy.
Moi, j'ai un livre de Stéphane Périllier recommandé chez Gallimard qui s'appelle « La France au miroir de l'immigration », qui est un livre très dépassionné mais qui permet de vraiment se plonger dans cette question essentielle.
Hubert Védrine.
Moi, le livre de Gérard Ringer sur le Second Empire.
Pour quelle raison ? Développer un peu ?
Parce que c'est un moment de modernisation extraordinaire et à peu près tout ce qui s'est fait d'important sous la Troisième République au début prend ses racines dans la deuxième partie du Second Empire, ce qu'on appelait l'Empire libéral. Et que dans la politique étrangère de Napoléon III, il y a énormément de leçons à tirer sur aujourd'hui, en ce qui concerne les échecs spectaculaires, les erreurs ou les réussites. Sa vision, par exemple, à long terme sur l'Algérie, était incroyablement intelligente, mais il n'a jamais pu l'imposer déjà au lobby de l'époque. Donc c'est très, très actuel.
Eh bien, merci beaucoup. Et tous ces livres, bien sûr, sont à retrouver sur le site de France Culture, sur la page de l'Esprit Public. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à Céline Leclerc qui, comme toujours, a préparé avec moi cette émission, à Luc-Jean Reynaud qui l'a réalisée, à la technique aujourd'hui, Hélène Ginestou, Thomas Accoudreuse et Youtou Diego Aclopez. Le week-end sport sur France Culture continue, vive la Coupe du Monde et notamment s'éduquer avec le foot à 17h avec Louise Touré dans Rue des Écoles. Tout de suite, Alain Crugère s'invite, lui, dans la cuisine de Guy Savoie. À dimanche prochain.